se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de cabillaud entier vidé est à seulement 5,99€.
À ce prix-là, c'est vraiment une bonne pêche. Et en plus, il y a marée basse sur son prix.
Justement, c'est l'occasion ou jamais.
En tout cas, moi, je me jette à l'eau.
Eh ben moi aussi. Auchan, avec plaisir. 5,99€, le kilo de cabillaud entier vidé avec tête. Pièce de 2 à 4 kilos élevée en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver chaque jour, du lundi au vendredi, de midi à 15h dans Estelle Midi. Ravis de vous retrouver bien sûr au 3216, votre numéro, et sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. On adore lire et écouter tous vos messages, alors ne vous gênez pas. C'est Rémi Barré qui les relaie tout au long de l'émission. Salut Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
On est avec Thierry Moreau, salut Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à tous. Ravi de revenir un mercredi avec Fatima et Pierre.
Ah ben bien sûr, d'habitude c'est Fred Hermel, mais aujourd'hui c'est vous. Thierry, on est avec Fatima Benomar justement. Ça va Fatima ?
Ça va.
Et puis Pierre Rondeau, notre économiste préféré, ça va Pierre ?
Ça va très bien, je sors tout de suite de cours là, je suis arrivé à l'instant, je pense être en retard et j'ai réussi à venir.
C'est bien, mais écoutez, c'est merci Pierre, parce qu'on va beaucoup parler d'économie, en tout cas d'argent. Aujourd'hui dans l'émission, au sommaire, la droite qui réclame une meilleure application des OQTF, l'obligation de quitter le territoire français après le meurtre de Lola. Est-ce qu'il faut simplifier les mesures d'expulsion des étrangers en situation irrégulière ? Et est-ce que cette récupération politique de la droite vous choque ? On attend vos réactions au 32-16. Midi et demi, le gouvernement qui active le 49.3 pour faire passer le budget 2023, est-ce que ça vous choque ? À 13h, Lactalis qui demande à la grande distribution d'augmenter les prix de vente de ses produits pour aider les agriculteurs. Est-ce que vous êtes prêts à payer plus ? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et on va parler de ces grandes enseignes qui vendent désormais des produits d'occasion. Et oui, c'est le cas de Casino notamment. À 14h, Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui dévoile son salaire à 500 000 € par mois et se fait critiquer de toutes parts. A-t-on un problème avec les riches en France ? On attend vos réactions au 32-16. Et puis, très beau cadeau à gagner dans l'émission.
Oui, RMC vous offre tout au long de la semaine 2 000 € pour rouler en voiture électrique durant un an. Pour cela, écoutez ce bruit. Alors, bruit d'un moteur de voiture électrique ou de voiture thermique ? C'est la question qu'on vous pose. Si vous avez la réponse, vous envoyez voiture par SMS au 732-16, voiture par SMS au 732-16, et le tirage au sort aura lieu vendredi.
RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC, RMC Story, canal 23, et on va démarrer tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et ce sont les suites de l'affaire du meurtre de Lola. La suspecte a été incarcérée depuis 48 heures. La droite ne cesse de rappeler que cette ressortissante algérienne faisait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et qu'elle n'aurait pas dû se trouver en France. Écoutez tout de suite David Lisnard, le maire LR de Cannes, invité ce matin de Sud Radio.
Si cette obligation de quitter le territoire français
la fameuse OQTF,
avait été bien adressée et appliquée, ouais, eh bien la petite Lola serait encore en vie. C'est incontournable. Et d'une part, et d'autre part, s'il n'y avait qu'un cas, ouais, le problème, c'est que on sait que moins de 10% des OQTF sont appliqués, et ça renvoie à la problématique générale d'un État régalien auquel nous sommes tous très attachés, c'est-à-dire d'un État qui doit veiller à la sécurité et à la justice et qui est défaillant.
Et c'est vrai que ce n'est pas la première fois, Rémi, que la non-application des OQTF fait débat.
Oui, et avec cette question, que dit aujourd'hui la loi ? Qu'une personne, en fait, sans titre de séjour valable en France, doit être expulsée. Elle tombe sous le coup, donc, de cette fameuse OQTF, cette obligation de quitter le territoire français. Mais attention, il y a une subtilité, car il existe deux types d'OQTF. La première, c'est l'obligation de quitter le territoire sans délai, c'est-à-dire sous 48 heures. Cela concerne les personnes sans papier qui ont créé un trouble à l'ordre public, comme un acte de délinquance. Dans ce cas, l'individu est placé en centre de rétention en attendant son départ. Et puis, il y a l'obligation de quitter le territoire sous 30 jours. Ça concerne les personnes qui n'ont aucun antécédent judiciaire et qui sont donc sans papier. C'est ce qui a d'ailleurs été notifié à Dabia B, la principale suspecte dans le meurtre de Lola. Le 20 août dernier, elle est contrôlée à l'aéroport. Elle n'a pas de titre de séjour valable. Et le lendemain, elle tombe sous le coup d'une OQTF. Sous 30 jours, donc, elle doit quitter le territoire par ses propres moyens et à ses frais. Et elle est laissée libre. C'est là que ça coince, son contrôle, par manque de moyens ou de volonté politique, selon certains élus. Conséquence, les OQTF sont en fait très peu respectées. On vient de l'entendre, Leur taux d'exécution ne cesse de diminuer depuis 2012. Et en 2019, seuls 12% des mesures d'expulsion ont été exécutées.
Alors, est-ce qu'il faut simplifier les procédures d'expulsion, justement, Thierry Mont ? On sait qu'il y a beaucoup de recours possibles.
Oui. Alors déjà, ce serait bien qu'on applique la loi.
Oui, c'est ça. Bah, en fait,
ce serait déjà une première chose. Mais on peut aussi améliorer cette loi. Il faut bien comprendre que l'OQTF, c'est une longue chaîne de décisions et de mécanismes, dont la dernière partie relève de la diplomatie, puisqu'en fait, il faut que le pays où on renvoie la personne expulsée accepte, donne un laissez-passer consulaire. Et ça, c'est compliqué d'accélérer ça et de donner une décision rapide. En revanche, pour tout ce qui se passe sur le territoire français, il y a des leviers d'amélioration pour que ça soit plus efficace. Par exemple, accroître le nombre de places en centre de rétention. Ça veut dire faire en sorte que la demande d'asile, une fois que tous les recours sont rejetés, implique obligatoirement une OQTF, ce qui n'est pas le cas.
Il y a un nombre de recours, je crois qu'on a le droit à plus de 10 recours. Donc
Oui, mais déjà, une fois que ces recours sont épuisés, il faut une procédure particulière pour une OQTF. Il faudrait que ça soit systématique, que dès que tous les recours sont épuisés pour quelqu'un qui n'a pas sa place sur le territoire français, ça entraîne une OQTF systématiquement, ce qui n'est pas le cas. On pourrait aussi réduire le temps de cette OQTF volontaire où on dit à la personne, vous avez 30 jours pour partir. Ça peut être 15 jours, ça peut être 20 jours.
Si t'as vécu 3 ans en France, 30 jours, c'est quand même pas énorme. Enfin, tu vois, il faut,
oui.
Tu peux pas partir comme ça.
Ça fait partie des leviers.
Enfin, on est en 10
jours. On peut aussi, parce qu'il y a un autre problème, c'est les délais de réponse aux gens qui demandent l'asile.
Ah oui.
Décentraliser les centres de... Aujourd'hui, tout est centralisé en région parisienne en ce qui concerne les demandes d'asile. Donc il y a un embouteillage, donc il y a des délais, et donc il y a des gens qui se retrouvent sur des situations précaires ou en tout cas pas claires pendant jusqu'à 5 mois, quelquefois plus. Ça pourrait être réduit si les centres de décision étaient décentralisés. Voilà tous les petits leviers qui font. Mais encore une fois, on ne peut agir que sur cette partie française, parce qu'en ce qui concerne la dernière partie, c'est-à-dire l'endroit où on renvoie le ressortissant expulsé, il faut que le pays accepte de le recevoir. Et ça, c'est un problème beaucoup plus compliqué et qui relève de la diplomatie. Donc c'est long d'accélérer les choses.
Ça vous a choqué qu'on ait ce débat tout de suite après le meurtre de cette adolescente, Pierre Rondeau ?
Choqué, enfin... Si on parle de récupération politique, ça peut être choquant qu'une partie de l'échiquier politique surfe sur l'affaire, profite de l'affaire pour véhiculer ses idéaux. Et l'extrême droite aussi, parce qu'il y a beaucoup de militants et de proches d'Éric Zemmour qui ont récupéré cette affaire, organisé des marches au nom de Lola et même acheté des noms de sites et de domaines sur Internet. Au-delà de la question politique, parce qu'elle est quand même très importante cette affaire, il y a aussi effectivement la question de l'application de ces OQTF. Cette femme, justement, qui a tué Lola, a été sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Et elle avait reçu cette information le 20 août. Donc ça faisait plus d'un mois et même un mois et demi qu'elle devait quitter le territoire, que donc la loi devait être appliquée, qu'on devait donc, de la part de la préfecture, des forces de l'ordre, en tout cas du domaine de la loi, appliquer cette obligation, et ça n'a pas été fait. Donc à la question du débat, faut-il simplifier les procédures ? Moi je dirais plutôt, faut simplement les appliquer. Qui est 3 jours ou 30 jours, peu importe, la question des recours, la question des conditions.
Mais quand tu fais pour les appliquer, tu vas pas mettre un flic derrière chaque personne.
Il y a des recours effectivement auprès de la préfecture, il y a une problématique, tu l'as dit Thierry, au niveau des démarches administratives et du temps que ça prend à demander justement une autorisation de rester, en tout cas un droit d'asile pour raison politique. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut, c'est effectivement simplifier, mais ça durcir, appliquer ces OQTF, éviter à ce que ça puisse se reproduire. On savait qu'elle devait quitter le territoire, on savait qu'elle ne devait pas être là, et au-delà d'elle, 10% seulement des OQTF sont appliqués. Oui. Donc il y a une question de surveillance, une question de moyens, une question d'ambition politique, une question de stricte application. Les cas particuliers, les recours sont audibles, les recours sont à étudier. Effectivement, on peut faire du cas par cas pour des gens qui sont là en France depuis X années, depuis 10 ans. C'est dur de pouvoir quitter le territoire au bout de 30 jours. Donc, effectivement, c'est à observer, c'est à entendre, c'est à écouter. Mais il faut accorder plus de moyens au système administratif pour qu'il puisse véritablement faire appliquer ces OQTF. Et qu'on n'ait pas seulement 12% qui depuis 2009 sont appliqués, sont amenés les gens à quitter
le territoire. Parce que tu ne peux pas mettre un policier derrière tout le monde.
C'est toute la complication. Mais si on veut aujourd'hui de l'ambition politique, au-delà des discours et de la récupération, si on veut de l'ambition politique, mettons les moyens. Arrêtons de baisser les impôts, accorder de plus d'aides, plus de 150 milliards d'euros d'aide.
Les impôts
n'ont pas baissé.
Hein.
Non mais arrêtons d'accorder plus de 150 milliards d'euros d'aide aux entreprises dont la plupart ne vont pas réussir à sortir de la crise, pour accorder plus de moyens à l'État, plus de moyens aux services publics, plus de moyens aux services sociaux, et qu'on applique réellement et concrètement les OQTF qui doivent être appliqués.
Faut durcir le ton, justement, Fatima, comme le dit Pierre Rondeau, au moins faire appliquer la loi qui manifestement n'est pas appliquée.
La loi n'est pas appliquée, mais la loi, elle est aussi mauvaise. C'est-à-dire qu'en fait, les OQTF, on a déjà un délai très... Bon, pour avoir déjà reçu une OQTF, on a un délai très très court pour réagir et pour la faire contester. Donc, il y a des OQTF qui sont contestées. Dans mon cas, le tribunal administratif a clairement accusé la préfecture d'avoir fait n'importe quoi dans mon dossier. Donc, et c'est comme ça qu'elle a condamné la préfecture à me régulariser. Parfois aussi, les situations peuvent évoluer. Des personnes en situation qui sont étrangères, c'est-à-dire que pendant les délais, elles peuvent rencontrer quelqu'un, elles peuvent retrouver un travail, et donc tous les arguments qui avaient été amenés au fait qu'ils devaient être expulsés peuvent être remis en cause. Et puis n'oublions pas que les personnes qui se retrouvent en centre de rétention, la moitié sont libérées, et dans un tiers des cas, c'est parce que heureusement il y a des associations qui sont dans les centres de rétention associatives et qui voient qu'il y a eu, en fait, comme il y a eu une politique du chiffre par rapport aux OQTF, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'OQTF qui sont délivrés, on se rend compte que beaucoup de décisions ont été faites dans la précipitation, dans l'approximation, et que donc un tiers des juges reviennent sur la légitimité de l'OQTF, et c'est ainsi que les personnes sont libérées. Et après, il y a évidemment tout ce qui nous échappe, malheureusement, c'est la question des pays tiers qui, effectivement, refusent de donner un laissez-passer. Mais moi, je ne suis pas pour faire une loi ou durcir une loi à l'aune d'une récupération politique. Déjà, parce que, à mon avis, ce qui va se jouer dans le siècle qui arrive, c'est qu'il va falloir accueillir plus de monde et les accueillir dignement, parce que pour des raisons, notamment de dérèglement climatique, qui vont aussi générer des conflits politiques, on devra accueillir plus de monde dans les pays du Nord.
Mais ça se
planifie.
Oui. Hein? Là aujourd'hui, manifestement, on n'est pas capable de.
Moi, je pense que si.
Plus de moyens.
Moi, je pense que si. Je pense qu'il y a moyen. Si le Liban a été, par exemple, capable après en 2015 à accueillir le quart de sa population pour accueillir les réfugiés, notamment syriens, je pense que la France, la septième puissance mondiale, peut penser ça. Mais à ce moment-là, donc, on ne fait pas des lois.
Aujourd'hui, elle n'est pas terrible. Hein.
Voilà, on ne fait pas. Pour moi, on ne fait pas. Ça, c'est sûr. Et pour moi, il y a eu vraiment une cloche.
On peut prendre ça comme exemple de réussite d'intégration.
Voilà, mais moi, pour moi, typiquement, avec leurs moyens, avec leur modèle économique, je pense que la France, elle peut faire mieux. Et moi, là où il y a de la récupération, c'est que, et je suis bien placée pour les savoir, des actes de barbarie, des actes de cruauté allant jusqu'au féminicide, allant jusqu'au meurtre des enfants et tout, il y en a tous les jours. On n'a jamais vu le Rassemblement national à ce moment-là monter au créneau à notre côté. Donc, si vous pensez que faire baisser le nombre.
Non, mais là, ce qui choque, c'est qu'en fait, cette femme n'aurait pas dû se trouver là. Et en fait, tu te dis, alors, c'est peut-être un peu basique. Mais... si elle avait pas été là, la petite serait encore en vie. Voilà.
Mais c'est une lubie. Si tu amènes, tu fais plus d'expulsions, ça ne fera absolument pas baisser de manière significative.
C'est pas ce qu'on dit, Fatima. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas parce qu'aujourd'hui, 80% des enfants qui meurent, c'est dans des violences intrafamiliales. Mmh. Et ça, on en est tous bien conscients. Donc c'est évidemment pas là-dessus. Mais là, en l'occurrence, sur ce cas, mais je suis d'accord avec toi, il faut jamais légiférer sous le coup de l'émotion parce que l'émotion est mauvaise conseillère.
Si l'argument de cette loi,
politique est là pour prendre du recul.
Si elle a été expulsée, il y aura moins de cas Lola, entre guillemets.
Ça aurait évité ce cas, c'est tout.
Oui, c'est voilà, ils illustrent par un cas qui n'est statistiquement pas significatif.
Ce qu'a dit le maire de Cannes, c'est un fait, c'est factuel. Si elle avait été expulsée, si le QTF avait été appliqué, Lola serait encore en vie. Point. Voilà. Si on appliquait les QTF,
d'un fait divers pour faire une loi, c'est qu'on pense que la loi va éviter de.
Mais il n'y a pas eu que celui-là. Il y a eu l'histoire à Nantes avec le viol d'une patiente de nuit qui a été violée par trois Soudanais en situation.
Cet individu qui a échangé des coups de feu avec la police, dont la passagère est morte, c'était il y a 15 jours. Il était sous le coup d'une OQTF et multi-condamné.
Par exemple, 80% des cas de féminicide, des femmes avaient porté plainte avant et ça a été classé sans suite. Donc si je dis... si on prend en compte les plaintes de ces femmes, il y aurait eu moins de féminicides. Statistiquement, ça marche, mon raisonnement. Donc, ça justifie une modification de la loi ou de meilleurs moyens.
Mais là, on ne demande pas à modifier la loi, on demande à la faire appliquer.
Si on dit que si on faisait ces expulsions, il y aura une baisse significative des cas de plaintes, statistiquement, ça ne marche pas.
Peut-être que le camp d'Éric Zemmour ou un certain camp de tendance extrême droite le dit, et là-dessus, je suis d'accord avec toi, et je pense que tout le monde sur le plateau est d'accord pour dire que c'est faux, c'est factuellement faux. Ce n'est pas parce qu'il y aura moins d'immigrants en France qu'il y aura moins d'homicides et moins de violences. La violence, elle est intrafamiliale, elle est aussi française, il y a aussi la délinquance franco-française, donc c'est faux de raisonner comme ça, là-dessus on est tous d'accord. Simplement, factuellement, si les OQTF avaient été appliquées, tous ces faits divers sordides n'auraient pas eu lieu. C'est tout. Ah,
c'est juste que ce sont des cas particuliers qui sont minoritaires et donc pour mais, moi, oui, ça ne justifie pas. Enfin, penser la question des OQTF distribuées de manière, pour le coup, souvent abusive et pour des politiques du chiffre, c'est pas par le bout de la lorgnette de ce qui s'est passé avec le drame de la petite Lola.
Mais la plupart du temps, c'est les marginaux, c'est les gens qui sont marginalisés, qui n'ont pas d'emploi. Pour les trois Soudanais, c'était le cas. Pour la suspecte dans le meurtre de Lola, oui, elle n'avait pas d'emploi, elle était marginalisée.
Ça peut éviter une mort d'enfant, c'est déjà bien.
Il y a des hommes qui ont tous les moyens, qui n'ont aucun problème d'ordre psychiatrique et tout, et qui violent et tuent des
hommes. Mais c'est aussi grave. On ne va pas hiérarchiser, opposer les faits divers sordides. C'est sur un cas particulier, on ne fait appliquer la loi, et sur tous les autres, les homicides intrafamiliaux et autres, les féminicides, tout, il faut appliquer la loi. C'est tout. C'est aussi simple que ça.
On est avec Nolwenn qui nous appelle du Finistère de Plouarzel. Bonjour Nolwenn.
Bonjour Estelle.
Bonjour.
Merci pour mon intervention et pour votre émission surtout, parce que c'est l'occasion de débattre.
Merci beaucoup Nolwenn, ça fait plaisir. Nolwenn, vous vouliez réagir justement sur ce débat, sur faut-il simplifier les procédures d'expulsion dans le cadre des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Est-ce que vous seriez pour justement simplifier tout ça et que ça aille plus vite?
Bien sûr. Écoutez, le premier rôle de l'État, c'est de garantir la sécurité de ses citoyens. Donc, je pense qu'on paye suffisamment d'impôts pour ça, on met des choses en place, et on s'aperçoit qu'on prononce des OQTF, que les gens qui commettent des méfaits, comme par exemple à Nantes, où l'église avait brûlé, j'ai en tête aussi les deux cousines, là, qui ont été poignardées sur le quai d'une gare, la petite Lola. Moi, écoutez, ça me fait vraiment mal au cœur, parce que ces gens-là n'avaient rien à faire en France. Ils avaient une notification d'expulsion du territoire et on les garde parce qu'on ne fait rien, parce qu'on prononce des OQTF sans les appliquer derrière, parce que personne ne vérifie rien. Et puis, c'est pour le malheur des pauvres gens qui se trouvent face à eux, finalement. Et moi, je voudrais avoir une pensée pour les parents de la petite Lola. Enfin,
tous les gens sous le coup d'une OQTF ne sont pas des délinquants.
Alors, l'immense majorité des personnes ayant des OQTF ne sont ni délinquants, ni des meurtriers, ni quoi que ce soit.
Ces gens-là n'avaient rien à faire en France. À ce moment-là, puisqu'ils étaient sous le coup d'une OQTF.
Non, puisqu'on peut contester une OQTF.
Oui, elle n'avait pas contesté.
Oui.
Écoutez, moi, je suis maman, je ne sais pas si vous connaissez le terme. J'ai perdu mon fils aîné, et ça va faire 10 ans. Je sais qu'on ne se remet pas du décès d'un enfant. Et encore, dans mon malheur, j'ai eu la chance de ne pas avoir un criminel qui a tué mon fils. Mais si vous voulez, moi, je ne peux que avoir... de la compassion pour ces parents-là, je les trouve exemplaires. À leur place, honnêtement, j'aurais remué ciel et terre, j'aurais fait des procès à l'État, tout ce que vous voulez, parce que perdre un enfant dans des circonstances pareilles, alors que c'était évitable, parce que cette dame n'avait rien à faire sur le territoire, c'est honteux, c'est un État qui est défaillant, un État qui n'assure pas la sécurité de ses citoyens. Et c'est très grave, parce que c'est la déliquescence de l'État, tout simplement. Si un État n'est plus capable de garantir la sécurité, c'est tout simplement qu'il n'y a plus d'État.
Encore une fois, vous tirez un trait d'égalité entre la présence des personnes en situation irrégulière et la question de la sécurité. Malheureusement, par exemple, sur l'affaire Maëlys, on ne peut pas expliquer ça par la présence
Donc,
ce que je veux dire, c'est que il y a plein de personnes qui sont en situation irrégulière, donc on peut partir du principe qu'ils n'ont rien à faire en France, même s'ils sont en situation irrégulière, c'est pas en situation illégale, et on peut aussi défendre la position
qu'on leur dit de quitter le territoire.
La régularisation des personnes sans papier, des travailleurs sans papier.
Ils peuvent faire des recours et là-dessus, personne ne dit le contraire. On invite au contraire à ce qu'ils fassent des recours si c'est légitime.
Je suis désolée, quand tu veux passer jusqu'à 15 jours, déjà un mois, c'est rien du tout.
Dans le cas des OQTF, tu as droit à des recours et c'est bien normal. Nous sommes dans un état de droit. C'est normal que quelqu'un qui vit en France depuis plus de 10 ans peut légitimement demander à ce qu'il remette en cause cette OQTF. Là-dessus, personne ne dit le contraire. Pour le cas très précis de Lola, cette femme n'avait pas fait de recours. Depuis le 20 août, elle savait qu'elle devait quitter le territoire. Voilà. Depuis le 20 août, elle n'avait fait aucun recours. Donc, c'est pas une question d'état de droit ou de déliquescence. C'est elle qui n'avait pas à être là, c'est tout. Et si vraiment elle avait respecté cette OQTF, Lola aujourd'hui serait vivante. C'est tout ce qu'on dit. On est
dans ce cas particulier, mais quand l'intervenante élargit en disant, je pense à tous les parents, l'État doit protéger ses citoyens, rappelons que l'affaire de là n'est pas représentatif de la question de la sécurité.
On n'a jamais dit ça, simplement.
C'est ce qu'elle a
tu
dit.
Tu as droit à des recours quand tu es une OQTF et c'est normal, toi-même, tu l'as vécu, tu peux remettre
oui,
en cause.
Oui, mais le débat, c'était de durcir la loi, de réduire les recours, de réduire
les appliquer.
On va remercier. Merci en tout cas, Nolwenn, d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. C'est un plaisir. On va accueillir Mohamed qui nous appelle Danière et qui est travailleur social. Bonjour Mohamed.
Bonjour Estelle et merci de m'écouter. Et merci pour votre émission. Alors là, je dois le dire parce que c'est important. Sur ce sujet en particulier, moi je suis travailleur social depuis des années. Mm-hmm. Et c'est vrai que la culture, on va dire, sociale est plutôt France Inter, pour dire les choses un petit peu simplement.
D'accord.
Je crois qu'aujourd'hui, sur des sujets comme ceux que vous évoquez, la vérité se trouve dans des émissions comme la vôtre. Parce que la réalité, c'est ce qui se dit dans les quartiers où on vit, où on travaille, et plus dans les quartiers, puisque ça irradie partout aujourd'hui.
Mais
aujourd'hui, on n'a tout simplement plus d'État. Ça n'existe plus, l'État. Il faut bien le comprendre, pour beaucoup de gens, ça n'existe plus, l'État. Vous avez un problème demain avec un voisin. Si vous ne le réglez pas par vous-même, entre guillemets, en utilisant parfois la force, parce que vous n'avez pas le choix, par la terreur.
Mohamed, on ne peut pas dire ça.
Non, ce que je veux dire, c'est je suis en train de le dénoncer. Je suis en train de dire que les gens ne l'acceptent plus, mais ils y sont contraints. Aujourd'hui, vous avez un problème, vous appelez la police, les policiers vont faire peut-être leur travail, et ils vont très bien le faire. Mais la personne va être là la minute d'après. Aujourd'hui, on parle de Lola. Lola, malheureusement, on va la considérer comme une martyre de cette cause-là, de cette France qui est en train de mourir, de l'esprit républicain qu'on nous a vendu et survendu. Mais la République, c'est pas simplement des joutes oratoires avec... on n'est pas dans la Grèce antique avec des gens qui sont là pour qu'on leur dise « Vous parlez bien, vous êtes beau ».
Mais Mohamed, ce que vous dites, vous, c'est que... En fait, concrètement, la loi n'est plus appliquée, quoi.
Mais elle n'est plus appliquée. Et puis, regardez le débat. Écoutez le débat. Là, à mon niveau, excusez mon langage, je me fous de savoir si cette dame était immigrée, pas immigrée. Je me dis juste que cette dame n'aurait pas dû être là, c'est une certitude. Et ce cas-là, en particulier, il a été qualifié d'accident. Je pense que la maman ne le voit pas comme un accident.
Non, mais bien sûr que non.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que ces accidents, un accident, c'est quelque chose qui, par définition, est rare et imprévisible. Quand ça se reproduit, comme c'est en train de se reproduire quasiment chaque jour, vous avez à Nantes ce qui vient de se passer, et ce que je vous disais, des jeunes qui s'organisent de façon naïve.
Oui, mais vous avez aussi des criminels qui ne sont pas sous le coup d'une OQTF et qui sont français.
C'est exactement ce que je dis. Avant de parler de ces migrants, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est le sujet, qu'on a beaucoup de migrants qui sont là, qui sont sans papier, donc entre guillemets invisibles sur les radars, donc qui ont ce sentiment d'impunité, puisqu'ils sont invisibles. Donc, vous arrêtez qui, parce qu'il n'existe pas.
Non, ils n'ont pas de sentiment d'impunité, parce que s'ils se font arrêter, ils sont dans. Je peux vous assurer que quand j'étais sans papier, j'en menais pas large.
Non, moi je vais vous parler des situations que je connais. Les situations que je connais, ce sont des gens qui parfois se font attraper, qui balancent une identité à droite, à gauche, on les présente devant un juge, 10 minutes après, ils sont dehors parce qu'on n'est pas sûr de leur âge, on les reconvoque.
Oui, mais de toute façon, il n'y a pas assez. Après, là où on va être d'accord, et tous les policiers le disent, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de juges, et de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Et là, c'est bien le problème de ce débat, c'est que les OQTF, encore une fois, tu peux mettre une OQTF sur quelqu'un. Là, elle était marginale, les SDF. Oui. Mais non, pour la retrouver, c'est pas facile.
C'est
quoi.
Ça, c'est après... qu'en plus, on parlait qu'elle n'a pas fait de recours, mais parlons aussi d'un contexte plus global, déjà où on a une espèce en France de déplacement de la psychiatrie vers la prison. Il y a plus de 20% des détenus en France qui sont sujets à des troubles psychiatriques, dont de la schizophrénie, etc., et qui sont assez lourds. Donc déjà, il y a ce contexte. Donc je ne sais même pas quelle marge de manœuvre elle avait, cette personne, qui n'était a priori même pas accompagnée
Il n'y a pas eu encore d'expertise.
Voilà,
dans quelle situation
elle se trouvait, parce que moi, par exemple, même moi, je n'étais strictement même pas au courant de mes droits et des questions, des recours que je pouvais avoir, si je n'étais pas tombée sur une association qui m'avait dit, on se pose, on voit ton dossier, tu le sais, il y a 30 jours, etc.
Après, pour rebondir sur ce que disait Mohamed, attention. Notre société aujourd'hui, elle est plutôt moins violente qu'elle l'était il y a 50 ans, il y a un siècle. Simplement aujourd'hui, avec les systèmes d'information que nous avons, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, le moindre fait divers est mis à la une et il y a un effet loupe. Aujourd'hui, il y a moins de meurtres, par exemple, qu'au début du 20e, etc., etc. Donc, faut pas non plus penser que la société devient de plus en plus violente. C'est pas tout à fait le cas, statistiquement.
Alors, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, c'est sans surprise. Au QTF, faut-il simplifier les procédures d'expulsion, Rémi ?
C'est le oui qui l'emporte, sans surprise, mais alors c'est massif. Hein. C'est 95% de oui pour ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Oui, il faut dire que ce meurtre a bouleversé, évidemment, tout le monde. Dans un instant, on parlera du passage en force du gouvernement. Le gouvernement qui va utiliser le 49-3 pour faire passer sa réforme du budget 2023. Est-ce que ça vous choque ? On vous attend au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, canal 23, dans Estelle Midi, avec Rémi Barre et Thierry Moreau, Fatima Benomar et Pierre Rondeau, avec vous, bien sûr, au 32-16 pour commenter le passage en force du jour. Et c'est celui, bien sûr, du gouvernement qui va utiliser le 49-3 pour faire passer sa réforme du budget 2023. Faute de majorité absolue, le gouvernement a choisi ce procédé plutôt que de passer par un vote à l'Assemblée, Rémi.
Oui, et ce recours au 49-3 est courant. Hein. La mesure est d'ailleurs inscrite dans la Constitution. Elle permet au Premier ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement. Pour faire simple, le recours au 49-3 entraîne la suspension immédiate de la discussion du projet de loi en cours. Le texte est considéré en fait comme adopté sans être soumis au vote, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent. Et si la motion de censure est rejetée, bah plus de débat. C'est terminé. Depuis 1958 et la naissance de la 5e République, le 49-3 a été utilisé à 87 reprises. Oui. Le record, il est détenu haut la main par Michel Rocard. Il y a eu recours à 28 reprises entre 1988 et 1991. Suivent Raymond Barre, Jacques Chirac et Edith Cresson. Alors, ils sont loin. Ils sont à 8 reprises à chaque fois d'utilisation du 49-3. Et le dernier 49...
Edith Cresson, c'est en moins d'un an, tout de même.
Oui, c'est ça. C'est pas mal. Elle tenait une bonne moyenne. Le dernier 49-3 en date, on l'a peut-être oublié, tiens. Vous savez quand c'était?
La loi travail.
C'était Édouard Philippe en février 2020 au sujet du projet de loi retraite.
Oui.
On l'a oublié parce que le processus a été interrompu par la pandémie Covid-19. Seul changement depuis 1958, il est taille quand même, hein, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, hors projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. On sur un projet de finances, hein, mais l'article 49.3 ne peut être utilisé que sur un seul texte au cours d'une même session parlementaire. Avant cette révision, le gouvernement pouvait y avoir recours aussi
hors
souvent.
Budget.
Hors budget. Il pouvait y avoir recours autant de fois qu'il le voulait et sur n'importe quel texte. Donc c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Donc faut bien choisir quand même quand on utilise le 49-3.
Dégainer, oui.
Alors ce recours au 49-3, est-ce que ça vous choque, Pierre Rondeau?
Alors oui, c'est choquant et parce que il faut revenir un petit peu de repères historiques. Il faut quand même rappeler que le 49-3, donc établi avec la constitution de la 5e République par le général de Gaulle en 58, dissociait le pouvoir exécutif du pouvoir législatif. Avec le pouvoir exécutif du président élu sur un septennat et le pouvoir législatif de l'Assemblée et du Parlement sur un quinquennat sur 5 ans. Et cette différenciation entre le septennat et le quinquennat faisait que de fait on pouvait avoir, en tout cas il y avait des risques, qu'il y ait une forme de cohabitation entre un président élu d'un parti politique et un Parlement élu d'une opposition politique. Donc pour éviter le désordre parlementaire, le général de Gaulle avait acté l'idée de pouvoir à la fois dissoudre l'Assemblée et passer en force via un 49-3. Et ça s'était appliqué justement quand le Parlement n'avait pas une majorité acquise. Alors je pense notamment à François Hollande, qui n'avait pas une cohabitation mais qui avait une majorité faiblement acquise puisqu'il y avait eu les frondeurs. Il y avait une trentaine de députés PS qui avaient refusé de soutenir son projet de loi travail. Là ici, pour le cas de Macron, là où ça me choque d'autant plus, c'est qu'à l'ère du septennat, donc de l'acquisition totale d'un système présidentiel, où en théorie il est censé avoir obtenu et assez facilement la majorité qu'il n'a pas obtenue, en tout cas la majorité absolue, il passe en force auprès d'un 49-3, donc sans respecter le débat parlementaire, sans respecter en plus les amendements qui ont été votés à l'Assemblée. Je pense notamment à l'amendement.
Est-ce que le débat sert encore à quelque
l'amendement
chose? Par exemple, l'ANUPS, quand bien même il reprendrait mot pour mot tout le programme de l'ANUPS, il voterait contre.
J'ai parlé du MoDem, qui est normalement un parti politique frère de la majorité présidentielle, qui a fait passer l'amendement de la taxe sur les super dividendes, donc qui a été voté par le Parlement, qui a été voté démocratiquement par l'Assemblée nationale avec le soutien du MoDem, qui sera
et
rejeté
de certains députés Renaissance
et de 19 députés Renaissance, qui sera rejeté par le projet final qui passera en force par le 49-3. Donc en plus de ne pas respecter le vote démocratique des électeurs, qui n'a pas accordé à Emmanuel Macron une majorité absolue à l'Assemblée, premier élément, le Parlement, en tout cas
pas
le gouvernement
pendant 5 ans sur le budget 2023,
continuer à discuter, à débattre via le processus parlementaire et via le débat parlementaire en commission.
Tu sais très bien qu'il y a de l'obstruction.
Il y a l'obstruction.
Il y a 3300 amendements pour l'instant.
Oui, mais en termes d'image, donc un président qui sous l'ère du septennat aurait dû obtenir la majorité absolue,
Ta relecture de l'histoire, excuse-moi Pierre, mais ta relecture de l'histoire, elle est un tout petit peu
faussé.
Non, tu cautionnes
que la Ve République,
tu cautionnes la que le Parlement qui est censé représenter le peuple ne soit pas entendu
non.
et qu'on passe en force pour un intérêt
cet outil.
De quelques-uns. Je te rappelle que
le
président
servira
Macron,
rien, tu le sais très
le
bien.
Président Macron a été cet élu, en tout cas au premier tour, il a récolté 25% des voix des votants. Avec un taux d'abstention extrêmement élevé.
Donc, non, tu dis ça, tous les autres partis ont obtenu moins. Donc, de toute façon,
il représente.
Excuse-moi, il est arrivé en tête.
Et on va faire auprès d'une minorité.
Non, mais excuse-moi, tu fais une relecture de l'histoire. Dans la Ve République, cet outil qui est dans la Constitution, donc qui est tout à fait utilisable par le gouvernement, il servait à quoi ? À éviter ce qui s'est passé sous la 4e, c'est-à-dire qu'il y a des gouvernements qui tenaient à peine quelques jours.
Exactement, éviter justement
donc,
ce désordre parlementaire.
C'est pour la stabilité des institutions. C'est pas seulement au cas où, au bout de son quinquennat, il a une majorité, etc. C'est pour la stabilité des institutions. Premier point. Deuxième point, excuse-moi, ça va mettre au moins, ça aura une vertu, c'est de mettre au pied du mur les oppositions. Est-ce que oui ou non, pour faire tomber un gouvernement, la NUPES est prête à allier ses voix au Rassemblement National, c'est-à-dire que l'opposition...
Bah, la réponse est non.
La réponse est non. Donc c'est pour ça que cette vertu-là, elle, au moins, elle va pouvoir faire tomber les masques.
Sur ce point-là, je te rejoins, bon, effectivement, ça va faire tomber les masques et ça va montrer à quel point la NUPES fait de l'obstruction parlementaire. Mais sur la question du MoDem, qui a voté cet amendement sur les dividendes...
Mais là, tu parles d'un abonnement, d'un amendement précis.
Il y a eu un vote qui est passé majoritairement sur un amendement précis, effectivement. Oui. Au final, le gouvernement ne va pas l'intégrer dans son texte qu'il va faire passer en force par le 49-3, alors que le MoDem, qui soutient le parti présidentiel, a voté cet amendement.
Mais ils ont fait passer l'amendement du MoDem que le ticket resto passe de 11 à 13 euros. Donc,
c'est des négociations. Mais justement, ça remet au centre... Mais je suis désolé, Pierre. Ça remet au centre le travail parlementaire. Ça remet au centre le travail parlementaire.
Le MoDem, c'est pas la
j'ai envie d'entendre Fatima, qui n'a pas parlé, qui est étonnamment calme sur ce dossier. Fatima Benomar, je sens que le 49-3, c'est pas votre tasse de thé, vous.
Bah d'ailleurs, rappelons, c'est assez cocasse que quand il a été utilisé sous Hollande, donc pendant les votes de la loi travail, la loi El Khomri, donc c'était à chaque fois le Premier ministre à l'époque Manuel Valls qui le dégainait. Et puis quand il y a eu les élections présidentielles de 2017 et qu'il briguait la présidentiabilité dans les primaires de la gauche, il avait dit, moi en fait, en réfléchissant, moi je serais plutôt contre le 49-3, donc moi, président Manuel Valls, j'abolirais le 49-3. Et il me semble à l'époque d'ailleurs que Macron aussi prenait ça pour un certain archaïsme et voulait remettre le Parlement au centre.
Une majorité
donc
absolue.
Moi je pense que les débats ils servent à en fait redébattre sur le fond, c'est-à-dire que par exemple de trouver un espace pour démanteler un peu les fake news, notamment sur la réforme des retraites qui nous pend au nez, parce que l'argument majoritaire des retraites c'était on avait entendu dire que c'était pour financer l'éducation, la santé, la transition énergétique. Là on a le texte qui écrit page 9, qui écrit noir sur blanc qu'en fait le gouvernement il fait cette loi pas du tout pour financer autre chose, c'est pour baisser les impôts aux entreprises. Donc il écrit noir sur blanc, les administrations de sécurité sociale participeront à la maîtrise de l'évolution des dépenses permise grâce à la réforme des retraites. Cette maîtrise de la dépense permettra, sans remettre en cause l'objectif de normalisation des comptes publics, de poursuivre la stratégie de baisse des prélèvements obligatoires. Il sera poursuivi notamment avec la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc, au moins, maintenant, on sait que c'était pas du tout sur un délire pour mettre de l'argent sur autre chose, sur le progrès, la santé, l'école, etc. C'est vraiment, il fait cette réforme, alors qu'on comprend pas puisque l'équilibre des comptes était déjà, pour faire baisser les entreprises.
C'est pas la même chose.
On ne sait pas encore s'ils vont dégainer le 49 fois sur la loi sécurité sociale, puisque là, il est dégainé sur le budget.
C'est pas la même chose, là, c'est le budget.
Donc, c'est pas la question.
Mais je peux t'assurer que sur la retraite, exactement. Donc là,
mais non, parce qu'ils peuvent pas le dégainer plus d'une fois
par session parlementaire.
Ils pourront le faire. Mais on ne sait pas encore s'ils vont le faire sur la Sécu. D'abord parce qu'il y a des
pour faire que la prochaine session parlementaire.
Exactement.
C'est ça.
Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment, en fait, la manière dont ils dégainent à chaque fois le 49-3 permet, en fait, de débattre sur le
temps. C'est pour gagner du temps, parce que sinon, tout va être bloqué. Là, déjà, on voit la situation du pays. Il y a un moment où.
On soit avec un Parlement.
Est-ce qu'on aurait entendu parler
du
budget d'amender les taxes des superdividendes s'il n'y avait pas eu, en fait.
Oui, mais il y a aussi des amendements, tu sais très bien, où on change juste un mot et on accumule un nombre d'amendements parce que ça fait durer le plaisir, ça fait durer les débats et en attendant, les décisions ne sont pas prises. Le budget, il faut qu'il soit voté.
Alors, on est avec Jean-Marc qui nous appelle de Sarcelles. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Jean-Marc, est-ce que vous êtes choqué par l'utilisation du 49-3, vous ?
Vous connaissez une autre solution ?
Le débat.
Le débat parlementaire ?
Oui, alors le débat parlementaire.
Il a eu lieu.
Comme je viens de l'entendre, il y a des dizaines de milliers de commandes.
D'amendements.
D'amendements déposés, on discute, et ça va aller jusqu'où ? Une entreprise privée, elle ne peut pas tourner sans budget. L'État, oui. L'État, c'est pareil. L'opposition, l'ensemble de l'opposition, RN et NUPES, a dit qu'elle ne voterait pas. Alors, on fait quoi? On continue à discuter et ça va nous emmener où? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'opposition va déposer une motion de censure qui sera adoptée. Et derrière, eh ben, effectivement, on dégaine le 49-3. Je ne dis pas que c'est un délit de démocratie, mais est-ce qu'il y a un autre choix? C'est la question que je me pose. Discuter jusqu'à quand? Ou alors, comme effectivement l'a dit un de vos invités, on se retrouve à l'époque de la 4e République, où les gouvernements tenaient 2 ou 3 jours.
Mais c'est assez intéressant ce que vous dites, Jean-Marc. Mais après, la question se pose aussi sur l'opposition qui souvent fait de l'opposition systématique. C'est et ça. On sait très bien que, quelles que soient, je veux dire, les propositions là du gouvernement, ils seront contre, même si ça va dans leur sens. Et c'est ça le problème.
Pire, c'est qu'en plus, ils n'arrivent même pas eux-mêmes à s'entendre. Alors, vous me direz que c'est normal que la NUPES ne peut pas s'entendre avec le RN. Il n'y a pas de débat constructif entre eux, au-delà d'un débat avec directement la majorité. Mais quand j'entends, par exemple, le RN qui milite pour l'augmentation du SMIC, le RN n'a pas voté l'amendement, n'a pas soutenu l'amendement proposé et présenté par la NUPES pour augmenter le SMIC.
Apportes de l'eau à notre moulin. Je vais te donner un autre exemple. Si la NUPES avait dit dès le début que justement nous sommes prêts à voter le budget. Excuse-moi, si la NUPES avait dit nous sommes prêts à voter le budget à condition que 50 amendements, 30 amendements, 20 amendements qui pour nous sont fondamentaux soit accepté, il y a au moins une ouverture de discussion. Dès le début, l'ANUPS, comme le RN, on dit on ne votera pas ce budget.
Soit, là-dessus, je te rejoins. Il y a vraiment une obstruction parlementaire. Là où je suis plus dubitatif et sceptique, c'est aussi vis-à-vis d'un véritable débat avec les Républicains ou le Modem, qui eux-mêmes proposent et soumettent des amendements qui sont votés ensuite en commission. Et même ces amendements votés en commission ne sont pas retenus pour le 49-3. C'est là où ça me pose problème.
Mais parce que pour exister, ils sont obligés de dire non. Et tu le sais très bien, Pierre. S'ils disent oui, ils n'existeront plus, on dira ils sont affiliés au Modem.
Un débat. Il y a eu un début de travail parlementaire au sein des commissions avec des votes des amendements qui certains étaient défendables, audibles et sont passés avec les votes des Républicains, les votes du Modem et certains parlementaires en marche. Au final, le 49-3, il va reprendre le texte. À l'origine, il va faire du cas par cas, il va piocher.
Amendements vont être pris.
Oui, il va piocher dans ce qui l'intéresse et ce qui n'intéresse pas. Alors que certains amendements ont été votés par l'Assemblée. Et là, il y a eu un parcours démocratique.
On voit bien la nature. On va dire, par exemple, quand ils s'arc-boutent sur l'amendement dont on a parlé ou celui de l'aide sur les EHPAD, etc. Enfin, on voit bien aussi qu'il y a, de leur côté, ils pourraient au moins se dire que certains amendements, ils sont en fait, ils sont entendables, tout simplement. Donc, je trouve que. On voit quand même qu'il y a un côté aussi du côté de la majorité de ne plus rien laisser passer et même de ne pas accepter les débats, même sur des choses qui, pour moi, relèvent quand même du minimum de justice sociale.
Et notamment les super profits, où il y a quand même beaucoup de partis qui l'ont voté. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, @EstelleMidi. L'exécutif qui pourrait utiliser le 49-3, est-ce que c'est choquant, Rémi Barré?
Ce n'est pas choquant pour 64% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux.
Ah, donc quand même belle majorité.
Dans un instant, la stabilité.
On va parler d'une révolution dans le monde des dentistes. Bientôt, vous allez pouvoir vous faire enlever une carie, mais par un robot.
Je ne me sens pas enthousiaste sur ce coup-là.
Je suis moyennement enthousiaste. Mais peut-être qu'Anthony Morel va réussir à me convaincre dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Vous êtes dans Estelle Midi, on est ensemble de midi à 15h sur RMC, RMC Story. Il est midi 49 et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et avec vous, Anthony, aujourd'hui, on va aller chez le dentiste. Mais un dentiste un peu spécial.
Ah. Ouvrez la bouche.
C'est un dentiste robot.
Ouais,
voilà.
Un dentiste robot. Vous, tel que je vous connais, vous devez être traumatisé du dentiste, non?
Non, je ne suis pas traumatisé, mais j'y vais souvent.
Je veux
avoir une hygiène buccale.
Alors justement, ça va peut-être vous plaire, ce robot qui a été conçu par des Chinois, mais alors qui est très spectaculaire pour le coup. Il a été conçu pour pouvoir réaliser un certain nombre d'opérations dentaires, genre implanter par exemple des dents, donc c'est pas rien, c'est quand même en termes de complexité, totalement en autonome, c'est-à-dire sans aucune intervention humaine. Et les résultats sont assez spectaculaires. Donc en gros, avec ce petit robot qui s'appelle Yomi, je vais le décrire pour tous ceux qui nous écoutent et ceux qui ont fermé les yeux parce qu'ils ont un peu peur. Eh bien, c'est un bras robotique qui est équipé de tout un tas d'instruments de torture. Donc il y a des écarteurs pour tenir la bouche ouverte, vous avez des foreuses, des roulettes, etc. Donc vous arrivez chez le dentiste, on vous fait un scanner de la bouche, et en fait, avec cette cartographie très précise, eh bien le robot va pouvoir venir méticuleusement eh bien vous soigner, réaliser l'opération dont on a besoin. Et mine de rien, ça fonctionne très très bien. Alors, il peut le faire de manière totalement autonome.
Mais il l'a fait sur des vrais gens.
Qui sont encore en vie. Qui sont encore en vie. Alors, je vous ai pas mis les images avec les vrais gens parce que franchement, c'est pas très ragoûtant, surtout à cette heure-ci. Mais il l'a fait et ça avait d'ailleurs été rendu public. Le truc, c'est que c'était une sorte de vitrine technologique. Là où il est vraiment utilisé, par exemple, dans les cabinets dentaires américains, c'est comme une sorte d'assistant pour le dentiste. C'est-à-dire, c'est un bras qui va guider celui du dentiste et lui permettre de ne pas aller trop loin. C'est-à-dire, c'est le robot qui va arrêter, il y a un retour de force. D'accord. Comme vous savez les systèmes d'assistance à la conduite où le volant vous résiste un petit peu vous essayez de mordre la ligne blanche. Et ben là c'est pareil, si le dentiste va un petit peu trop loin, qui va toucher la racine de la dent, hop, c'est le robot qui l'arrête.
Enfin, la douleur c'est nous qui la ressentons, c'est pas le robot.
Mais justement. Anesthésié.
Ben ouais, alors enfin, quelquefois le temps.
Non, mais la moitié du boulot d'un dentiste c'est un métier de psy quand même. Tu essaies de lui raconter ta vie pour qu'il ait pitié de toi et qu'il te fasse pas mal.
Alors c'est pour ça qu'effectivement l'idée c'est pas de remplacer complètement le dentiste, mais c'est d'avoir un outil d'assistance qui peut lui permettre d'optimiser ses gestes, on va le dire comme ça.
Mais c'est vrai que la machine n'est pas hyper rassurante. Là, on la voit sur RMC Story. Bon, j'ai pas trop envie, quoi.
Mais c'est vrai que c'est un truc de film d'horreur. Ah bah, personne fera ça. Je suis pas du tout certain. Alors peut-être que les plus
gros. Un robot autonome.
Vous savez qu'il y a une phobie des dentistes. Vous savez comment ça s'appelle? La stomatophobie.
Voilà.
Et donc, effectivement, si on est intuitif, on va se dire non, mais jamais je me ferai opérer par une machine comme celle-ci. Mmh. Si on est rationnel, en réalité, c'est comme toujours quand je vous parle de voitures autonomes, d'automatisation, le robot, il a un avantage sur nous, c'est qu'il est de toute façon plus précis. Mmh. Et c'est pas remettre en cause le travail des dentistes qui font un travail formidable, c'est juste que la machine, elle est comme ça. Voilà, on peut avoir des gestes d'une précision absolument incroyable.
Si quelqu'un va la hacker.
Voilà,
c'est ça.
Quelqu'un qui me veut du mal.
Elle n'est pas censée être connectée à Internet quand même. Enfin, le robot n'est. Enfin, vous voyez, à part que je vois pas. Sinon, moi qui veux jouer à Tetris avec son robot en ligne, je sais pas. Peut-être qu'il y a moyen de créer un mode comme ça, mais je ne pense pas. Donc, a priori, les problèmes de hacking, ça devrait pas être un sujet. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir équiper de tout petits instruments, beaucoup plus petits que ceux qu'on utilise. Utilise un dentiste humain, ce qui permet de faire ce qu'on appelle de la chirurgie micro-invasive ou mini-invasive. Donc on se remet plus vite, on a moins mal. Enfin c'est ça.
Et c'est la question juste. On a moins mal ou pas?
Oui. On est censé avoir moins mal. Alors je l'ai pas testé en vrai. Je suis pas allé. Je suis un peu couard.
Rémi, il est comme un dingue.
Est-ce que c'est objectif?
Normalement, est-ce que c'est objectif?
Par exemple, on sait que dans les dentistes où il y a des aquariums avec des poissons, la douleur baisse. Mais bon, ça montre que le côté psychologique, il agit aussi.
Alors je sais pas pour l'aquarium, mais en tout cas, avec le robot, sur les tests qui ont été réalisés, effectivement, la douleur est moindre. Et le dernier avantage de ces robots, c'est qu'en mode autonome, il pourrait quand même être une solution aussi aux déserts médicaux. Il y a des endroits où il y a des pénuries de dentistes aujourd'hui. Et voilà, pour aller se faire un petit détartrage.
Non,
mais
jamais de la vie.
Les gens qui vont à la campagne, ils ont droit à des étudiants et à des robots. Quoi.
Mais non, mais.
Ça, c'est extraordinaire.
Je vais te faire un petit détartrage. Enfin, moi, ça me choquerait pas que ce soit.
Mais il y a personne derrière pour superviser.
Il y aura toujours un
humain derrière le robot.
En
tout cas, dans un premier temps.
Il y a aussi des. Alors, ça, c'est bien. Ça, c'est des robots cobayes.
Alors, voilà, c'est l'inverse. Là, ça, pour le coup, bien. C'est le dentiste est humain. Ouais. Mais c'est le patient qui est robotique. C'est pour former les futurs dentistes. C'est un peu, moi, ça me fait penser à Dr Maboul. Vous souvenez de ce jeu? C'est génial. Avec dit, ça sonnait dès qu'on touchait un petit peu trop le patient.
Je sais jamais.
C'était très très fort. Parce que franchement, il y avait des os, c'était compliqué de les sortir. Enfin bref.
Arrêtez ta carrière.
Ouais, c'est clair. Alors, le robot dentiste, c'est exactement la même chose. C'est le robot cobaye. Donc, c'est un visage avec des dents et des capteurs sensitifs. Il y a plus de 200 capteurs qui vont lui permettre de ressentir, je mets des gros guillemets, de simuler en tout cas la douleur qu'il ressent. Et donc, si l'apprenti dentiste, le touche un petit peu trop. Oui, c'est un robot, c'est un mannequin robotique en fait, voilà, et qui bouge dans tous les sens.
Les images, elles sont incroyables.
Ah, c'est
une vraie personne.
On croirait une vraie personne, mais c'est bien un robot, effectivement. Et effectivement, si on touche un peu la racine de la dent, par exemple, parce qu'il y a des dents à l'intérieur, évidemment, eh bien, le robot va bouger dans tous les sens, il y a de la salive qui va sortir, il va commencer à mordre le dentiste. Enfin, voilà, c'est Dr Maboul, quoi, mais vraiment version 2.0. Mais c'est très intéressant.
Mais presque convaincu.
Ah, je suis content.
On parle de quoi demain, Anthony?
Demain, je vais vous présenter un parti politique un petit peu particulier que vous connaissez certainement pas, d'abord parce qu'il n'est pas français, mais surtout parce qu'il est dirigé par une intelligence artificielle.
Ah oui.
C'est le parti politique, le programme est conçu par une IA. Et vous allez voir que ça peut très vite dégénérer. Bah,
il y a des augmentations ou pas?
C'est un peu populiste, je crois.
Ouais, c'est un peu populiste, effectivement. Et c'est, alors, il y a des grosses augmentations de salaire, effectivement.
Vivement demain. Merci beaucoup, Anthony Morel. Dans un instant, on parlera de Lactalis qui demande à la grande distribution d'augmenter le prix de ses produits afin d'aider les agriculteurs. Est-ce que vous êtes prêts à payer plus vos produits laitiers? On en parle dans un instant sur RMC. À tout de suite.